Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous dans Décryptage. Ce soir, le monde selon Trump. Un monde déjà complètement bouleversé, 6 semaines seulement après son retour à la Maison-Blanche et avec pour promesse de donner un nouvel âge d'or à l'Amérique, Donald Trump a brutalement bousculé l'ordre mondial mis en place depuis 1945 et même son propre pays avec la purge de l'administration fédérale américaine, tout en imposant à l'extérieur des droits de douane à ses propres alliés et en suspendant l'aide militaire apportée à l'Ukraine après s'être donc rapproché de la Russie de Vladimir Poutine. Et ce n'est que le début, a-t-il promis hier lors de sa très longue adresse au Congrès. On l'écoute.
Rien ne peut arrêter le rêve américain et notre pays est sur le point de faire un retour comme le monde n'en a jamais vu et peut-être n'en reverra jamais de nouveau.
Voilà jusqu'où ira Donald Trump dans sa quête de grandeur pour l'Amérique, la diplomatie de la force qui est la sienne. Conduira-t-elle le monde au chaos ou pas? On en parle ce soir avec nos invités en ligne avec nous, Jérôme Viala-Godefroy. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en civilisation américaine, spécialiste de la rhétorique présidentielle, auteur du livre « Les mots de Trump » paru aux éditions Dalloz. Également dans ce studio avec nous, Pascal Boniface. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bienvenue à tous les deux sur RFI. Et un mot peut-être déjà pour commencer, Jérôme Viala-Godefroy, sur le discours hier de Donald Trump devant le Congrès et sa volonté notamment de forger, je cite, « la civilisation la plus dominante qui ait jamais existé sur la surface de cette terre ». Est-ce une expression nouvelle, en tout cas aussi clairement exprimée par Donald Trump ?
En termes de domination et de puissance, effectivement, et ce qu'on voit, c'est que comme on le sait déjà par rapport à Donald Trump depuis un certain temps, ce n'est pas les valeurs qui comptent. Or, ce genre de discours, généralement, tourne quand même à un moment donné autour des valeurs de la liberté, de la démocratie. Et là, c'est uniquement la puissance. Et chez Donald Trump, la valeur suprême, c'est la puissance. D'ailleurs, on le voit dans son rapport avec les autres pays. Ce qui compte, ce n'est pas la liberté, la démocratie, encore une fois, mais c'est la force des gouvernements qui peuvent imposer un programme, une politique. Et c'est pour ça qu'il admire aussi des gens comme des leaders comme Poutine ou Viktor Orban, par exemple.
Est-ce que Donald Trump se paye de mots ou ses rêves de domination peuvent inquiéter de la part du président de la première puissance et démocratie mondiale?
Alors, ça peut inquiéter. Il ne va pas aller a priori sur une guerre, mais il a quand même parlé, ça c'est très nouveau par rapport à son premier mandat, il parle quand même d'annexion de certains territoires. Il en a reparlé là dans son discours, il a parlé du Groenland. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était scripté, il a parlé du droit aux habitants de rejoindre les États-Unis, et puis après, il a rajouté lui-même, mais ils le feront d'une manière ou d'une autre, on va prendre le pays. Enfin, il a repris cette rhétorique là de captation, de prendre vraiment un territoire. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau chez Donald Trump par rapport à son premier mandat, en tout cas.
Ah justement, Pascal Boniface, ce nouvel âge d'or des États-Unis qu'il a donc promis aux Américains, ça passe par cette domination du monde avec, on le disait à l'instant, ses visées expansionnistes, voire impérialistes sur le Groenland européen et sur le canal de Panama.
Donald Trump pense qu'on vit dans un monde unipolaire où les États-Unis peuvent tout imposer et que les autres pays ne peuvent qu'accepter ou subir ce que décident les États-Unis. Mais le monde unipolaire, c'est un monde qui n'existe pas, qui n'existe plus. Il a peut-être existé en 1945, mais il n'est plus existant maintenant. Il y aura des contre-forces, des contre-pouvoirs qui vont se faire et donc qui suscitent des ennemis. Et surtout, monsieur l'a dit tout à l'heure, il s'appuie sur la puissance, sur la force. Il oublie quand même que le soft power est un élément extrêmement important de la puissance aujourd'hui, et on a l'impression qu'il prend un malin plaisir à se fabriquer des ennemis. Et tous les amis qui ont été trahis par Trump, je pense au Royaume-Uni, au Canada, les pays les plus proches, doivent avoir un sentiment quand même de trahison. Tous les pays européens, au Taïwan, le Japon, la Corée, tous les alliés se sentent un peu trahis par Trump, et on pardonne moins aux traîtres qu'aux ennemis. Donc en fait, Trump est en train peut-être de saper. Il célèbre rendre l'Amérique plus grande, et d'ailleurs il y a une contradiction dans son raisonnement, puisque s'il faut rendre sa grandeur à l'Amérique, c'est qu'elle en a perdu une partie, c'est qu'elle n'est plus la seule puissance au monde. Mais le comportement qu'il adopte est celui d'un président qui n'aurait aucun obstacle à sa volonté devant lui.
Pascal Boniface, est-ce que le monde, selon Trump, est un monde nécessairement brutal, toujours en tout cas ancré dans le rapport de force, comme celui qu'il a imposé au président Zelensky en lui tordant le bras avec cette suspension de l'aide américaine, après déjà la séance d'humiliation dans le bureau ovale?
Oui, effectivement, c'est une humiliation publique. Il y a une sorte de cynisme, même de sadisme de sa part, d'humilier quelqu'un qu'il estime qu'il lui a manqué, qu'il ne l'a pas suffisamment respecté. Oui, c'est la brutalité, mais pas la brutalité armée. Trump ne lancera pas son pays dans des guerres, non pas seulement parce qu'il rêve de ce prix Nobel de la paix qui a été attribué à Obama, donc il serait illégitime que lui-même ne l'ait pas, mais il a été élu pour arrêter les guerres. Les Américains en ont assez des interventions militaires extérieures qui les ont exténuées. Et lui, il veut une brutalité économique. En fait, c'est par le poids de la puissance économique, des GAFAM, des rétorsions, des droits de douane, effectivement, qui là aussi peuvent s'avérer contre-productifs. Donc, il veut tout obtenir dans un rapport de force quasi mafieux, d'obtenir par la brutalité, mais sans intervenir militairement.
Est-ce que cette bascule géopolitique, Jérôme Viala-Godefroy, autour de ce rapprochement spectaculaire entre Washington et Moscou, va se faire, à votre sens, et quoi qu'il arrive, aux dépens et de l'Ukraine et de l'Europe ?
Alors, pour Donald Trump, effectivement, l'Europe et l'Ukraine sont secondaires. Et d'ailleurs, il faut dire aussi que pour un certain nombre d'Américains, c'est secondaire. Alors, on peut voir ça aussi dès la présidence d'Obama. C'était devenu moins important. Obama se tournait plus vers la Chine en termes d'importance stratégique. Mais chez Trump, ça va beaucoup plus loin, puisqu'il y a aussi l'idée de diviser encore plus l'Europe, et notamment il utilise, enfin, et là on a Elon Musk aussi qui joue un rôle dans cet affaiblissement. Il dit d'ailleurs très souvent que l'Europe en fait s'est unie contre l'Amérique. Il voit l'Europe comme étant plutôt presque un ennemi, et en tout cas un ennemi mais qui n'est pas dangereux et qui est faible et qui ne compte pas. Et donc, il traite les Européens comme tels, c'est-à-dire comme une zone de seconde zone. Lui, ce qui est important pour Donald Trump, c'est ce qu'il pense être les grands empires, la Russie, la Chine, parce que ce sont des pays qui semblent forts, qui ont, dans l'image en tout cas, et qui ont évidemment des gouvernements forts, tyranniques évidemment. Mais ça, c'est ce qui est important, c'est ce qu'il admire. Et c'est vraiment comme ça qu'il veut fonctionner. Et en Europe, son modèle, c'est Viktor Orban.
Est-ce que le divorce transatlantique est complètement acté, Pascal Boniface ? Qu'est-ce qui pourrait pousser Donald Trump à revenir vers ses alliés européens ?
Il sera très difficile pour lui de revenir sans manger son chapeau, parce que les propos ont été clairs et nets. Il y a un divorce. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de monde occidental tel qu'on l'a connu depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale, depuis que, pour faire court, Harry Truman a dit que les États-Unis prenaient la tête du monde libre. Là, les États-Unis disent on prend la tête du monde, mais il n'y a pas de monde libre contre un autre monde. On peut aussi bien s'entendre avec Poutine, avec Kim Jong-un, et ne pas s'entendre avec le chancelier Merz ou le Ken Stemmer, le premier ministre britannique. Donc c'est un monde radicalement nouveau. Quelles sont les raisons qui l'ont conduit à cela? Elles sont nombreuses, on les connaît, c'est sa vision du monde. Mais une fois encore, il ne faut pas chercher à inverser. Je crois que les tentatives de certains dirigeants européens de dire « on peut encore tenter quelque chose, il va revenir vers nous », c'est qu'ils sont tellement dépendants et habitués à cette dépendance par rapport aux États-Unis qu'ils ont du mal à imaginer. Pourtant, c'est la surprise qui est surprenante. Il avait annoncé la couleur déjà dans son premier mandat. Il avait encore plus franchement annoncé la couleur dans la campagne électorale pour la 2024. Rappelez-vous quand il disait qu'il conseillerait même à la Russie d'envahir les pays européens. Et puis donc, il le fait très nettement. Donc en fait, il ne faut pas espérer que c'est un cauchemar dont on va se réveiller et que le monde d'avant reviendra avec un solide lien transatlantique.
Il faut comprendre qu'on n'est plus des alliés de l'Amérique, mais de simples partenaires, comme le pense l'ancien président François Hollande.
Oui, enfin même pour Trump, nous sommes des ennemis, puisqu'il a dit que l'Union européenne est un ennemi et qu'elle a été construite pour embêter, pour entuber les États-Unis. Donc c'est même pire que partenaire. Là où nous devons faire notre révolution copernicienne, c'est qu'on ne va pas couper les ponts avec les États-Unis, mais il faut faire du coup par coup, il n'y a plus d'alliance, on peut être partenaire, on peut être rivaux. Ils nous considèrent comme des ennemis, bah, s'ils le considèrent comme ça, on se défendra comme on doit se défendre par rapport à quelqu'un qui nous considère comme un ennemi, je pense au plan commercial. Mais donc, effectivement, sortons de l'illusion, sortons de ce somnambulisme stratégique qui, pendant 80 ans, nous a dit qu'on était bercé par les Américains et on était ainsi protégé.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans l'attitude de Trump, hein, qui n'a que le mot « paix » à la bouche quand il s'agit de l'Ukraine, que de lancer parallèlement sa grande guerre commerciale contre ses principaux partenaires commerciaux, le Canada, le Mexique et la Chine, c'était hier. Jérôme Viala-Godefroy, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, il faut voir que pour Donald Trump, tout ce qui est, il a une vision de l'économie très très simple en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est un déséquilibre commercial, c'est forcément que l'Amérique se fait avoir. Tout ce qui est tarif douanier, c'est quelque chose de bien parce que ça fera rentrer de l'argent. Et donc, il a une politique économique qui est très simple, c'est-à-dire baisser les impôts et faire payer les étrangers d'une manière ou d'une autre, et notamment par des tarifs. Bien évidemment, cette vision simpliste, elle est tout à fait dénoncée par tous les économistes et elle ne fonctionnera pas. Et je pense que c'est par là qu'il va y avoir vraiment des problèmes. Et d'ailleurs, si on écoute vraiment bien le discours de Donald Trump, notamment quand il parlait de l'agriculture, il a bien dit « bon, il va y avoir un petit problème, des petites questions d'ajustement pendant un moment, mais c'est pas grave, on a l'habitude, on sait faire ». Enfin voilà. Et donc, il est quand même en train de préparer un petit peu certaines catégories d'Américains, parce que les fermiers vont être les premiers à vraiment sentir les effets et il va y avoir des problèmes à ce niveau-là. Et pour les Américains, il faut effectivement voir que les questions internationales ne sont pas le premier sujet. Le sujet principal, c'est l'économie. Mais c'est par là qu'il risque d'avoir de gros problèmes et de devoir se remettre en question, et notamment si la bourse continue
à baisser. Pascal Boniface, est-ce que le président américain fait là une grosse erreur en se lançant dans cette guerre commerciale ? Est-ce que ça peut faire une politique de long terme ?
Dit lui-même qu'il y aura des turbulences tout de suite, qu'il y a des turbulences, mais que c'est très passager et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais quand vous mettez des taxes de 25% sur les produits, bah nécessairement, ça crée de l'inflation. Et on sait que l'inflation vécue a été l'une des sources du mécontentement ou de la dissatisfaction des électeurs américains à l'égard de Biden et donc de Kamala Harris. Et donc, il prend le risque d'une augmentation du coût de la vie, qui est l'un des sujets les plus sensibles dans le public américain. Et ça va se voir très rapidement. Et bon, les fournisseurs vont voir leurs produits plus chers et donc moins compétitifs par rapport aux concurrents étrangers. Donc, je ne suis pas sûr que, sans parler bien sûr, de ceux qui seront taxés, qui vont taxer à leur tour et qui ne vont pas rester sans rien faire. Donc, on peut penser qu'au bout d'un certain temps, il va devoir revenir sur ces menaces de taxation parce qu'elles vont lui apporter plus de problèmes que de solutions.
Il ouvre d'ailleurs la porte à un possible compromis alors que les Canadiens, les Mexicains et les Chinois semblent bien décidés à se battre. Mais c'est toujours la même méthode. Hein. On écrase de taxes la force, les droits de douane et ensuite on discute.
Oui, c'est la méthode Trump, c'est qu'on met des conditions qui sont tout à fait inacceptables, excessives, et ensuite on revient un peu en arrière, mais du coup on a obtenu plus que ce qu'on aurait obtenu initialement. Mais cette méthode commence un peu à être connue, elle est un peu usée, et une fois encore, dans la mesure où il s'attaque à tout le monde, s'il n'avait ciblé que la Chine, il aurait pu réussir. Mais il cible tout le monde, donc en fait, y compris les Chinois, sont rassurés de voir qu'ils ne sont pas les seuls visés, mais que Trump s'attaque également à ses voisins et à ses alliés majeurs. Et c'est le caractère un peu général de cette taxation qui va la rendre difficilement rentabilisée.
Jérôme Viala-Godefroy, hein, on l'a dit, Trump ne pourra pas toujours blâmer Biden pour l'inflation. Est-ce qu'il va, le président américain, vite être rattrapé par les élections de mi-mandat fin 2026 et le jugement des électeurs ?
Oui, ça va être la grande question, bien évidemment, puisque, comme ça a été très bien dit, hein, l'économie va être un facteur très important. Et je pense que d'ailleurs, ça va arriver assez rapidement. Et donc, les élections de mi-mandat sont extrêmement importantes et vont être déjà une façon de voir un petit peu ce qu'il en est vraiment de l'opinion publique en dehors des sondages qui disent certaines choses, mais c'est vraiment l'élection qui va être importante. Donc, je rappelle que c'est un tiers du Sénat et l'ensemble de la Chambre qui va être réélu dans un peu moins de 2 ans maintenant. Et la campagne va commencer très, très vite. La campagne, elle commence 1 an avant. Donc, on a juste quelques mois. C'est pour ça qu'on parle souvent des 100 premiers jours des présidents. C'est tout à fait artificiel. Mais voilà, on va voir ça. Alors, juste un petit élément que je voulais rajouter, effectivement, sur les droits de douane. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il l'a fait, par exemple, avec le Canada. Mais avec le Canada, il y a des allers-retours de pièces, par exemple, pour les automobiles, pour un certain nombre de choses. Et si ça doit être taxé à chaque fois, vous imaginez un petit peu ce qui peut se passer. Donc, je ne sais même pas sur le plan pratique comment ça va pouvoir se passer, sinon on risque d'avoir 25% à chaque fois des deux côtés, ça va être très compliqué. Et on voit que le Canada, y compris d'ailleurs le premier ministre de l'Ontario, qui a vraiment proposé même de couper l'énergie à l'État de New York, par exemple, puisqu'une partie de l'énergie, de l'électricité, vient du Canada notamment.
Et même au niveau européen, où les mêmes droits de douane devraient être imposés très rapidement, hein. Tesla dévise de 76% en Allemagne. Le pari sera perdant, là encore, s'il s'attaque demain à l'Europe.
Oui, alors c'est intéressant parce que Elon Musk est encore plus impopulaire et beaucoup plus impopulaire à ce stade que Donald Trump. On va voir exactement justement s'il va être un petit peu le fusible. Pour l'instant, ça tient. C'est important pour Donald Trump d'être lié à quelqu'un de très riche et qui a une puissance qu'il admire. Mais il va falloir voir si ça tient au moment où il y aura des contestations, des problèmes et des critiques. Mais pour l'instant, effectivement, les contre-pouvoirs sont assez affaiblis. On l'a vu pendant le discours, hein, et on le voit avec les votes sur les nominations, par exemple, au Sénat. Que ce soit la Chambre ou le Sénat, les Républicains, c'est le parti de Trump. Et ils ont une majorité courte, mais ils ont quand même une majorité dans les deux chambres.
Pascal Boniface, comment expliquer le manque de réaction de l'opposition démocrate aux États-Unis ? Est-ce qu'ils sont toujours sonnés par la brutalité de ce nouveau régime trumpiste ? On n'a pas entendu toutes les grandes voix démocrates, Obama, les Clinton, Harris, véritablement s'insurger quand Zelensky a été humilié dans le bureau ovale, ce qui...
Alors, je pense qu'ils respectent un peu, ils savent que c'est trop tôt pour critiquer Trump, il vient d'être élu, il vient d'entrer en fonction, ils doivent attendre en disant qu'il va se prendre les pieds dans le tapis et que c'est un peu plus tard. S'ils le critiquent maintenant, ils vont le réhabiliter, puisqu'ils ont été rejetés finalement par l'électorat, Trump est élu, c'est encore frais. Et donc, je pense que c'est bien de leur part de ne pas trop élever la voix pour attendre que les contradictions et les effets négatifs des décisions de Trump soient évidentes. Ceci étant, c'est un silence total, mais on sait très bien aussi que depuis quelque temps, les Clinton et les Obama ne sont plus très présents dans le débat. Quant à Biden, il aurait du mal à l'être.
Jérôme Viala-Godefroy, les démocrates doivent attendre la fin des 100 jours avant de remonter au créneau, c'est tenable ?
Alors moi je pense qu'ils ont déjà fait des choses hein, quand même au niveau des États notamment, ils sont allés devant les tribunaux pour remettre en cause des décrets présidentiels, mais le problème pour les démocrates en plus ça a été visible pendant le discours, c'est la question de quelle stratégie adopter. Le chef des démocrates à la Chambre voulait qu'on garde une certaine dignité, mais d'autres démocrates
Nancy Pelosi,
c'était assez incroyable. Pendant ce discours, on a vu donc Al Green, un représentant du
qui a été sorti,
Texas, qui a été sorti,
Texas,
qui a été sorti par les désormes des hommes
en armes
entre guillemets, voilà. Et
en
donc,
quelques mots. On arrive
voilà,
à la fin.
Donc en fait, on voit que chez les démocrates, il y a encore des différences au niveau de la stratégie adoptée. Mais effectivement, je pense
qu'ils vont pouvoir se réveiller quand
il y aura des éléments très clairs.
Merci Jérôme Viala-Godefroy, spécialiste de la rhétorique présidentielle américaine, auteur du livre « Les mots de Trump ». Merci également à Pascal Boniface, directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques.